Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Donc il y a eu toute une période un peu comme ça où je gagnais très très mal ma vie, je travaillais la nuit, c'était un peu fatigant par ailleurs comme rythme. Et en plus, comme j'avais pas d'argent, j'avais pas de vrai chez moi, donc j'avais littéralement un baluchon sur le petit sac là de la marine française. Et j'habitais chez des potes pendant 2 ans quasiment. Je m'appelle Romain Paillard, j'ai 38 ans et je suis un des cofondateurs du Wagon. Le Wagon, c'est une école pour apprendre à coder pour devenir data scientist. J'avais des parents qui venaient d'un milieu bourgeois, médecin, ophtalmo, etc. Mais moderne dans le sens où ils ont divorcé plein de fois. On a beaucoup changé d'appartement, de maison, de foyer, etc. Pendant plusieurs années, je crois qu'on avait compté ça avec mon frère et ma sœur. On a déménagé une vingtaine de fois, je crois, en une dix-huitaine d'années. J'étais très mauvais, en fait, à l'école, tout petit. Donc, on m'a mis dans une école bien carrée, bien sérieuse, bien catho, qui s'appelle Stanislas, qui est une école, un collège, lycée parisien, avec laquelle j'étais pas forcément en adéquation, qui avait le mérite de la rigueur, on va dire. Juste après mon bac, donc on était au début des années 2000, j'ai fait à peu près n'importe quoi pendant l'année qui a suivi. C'est-à-dire que je me suis inscrit en économie à la Sorbonne, c'était une catastrophe. J'ai fait 2 mois, ça ne m'intéressait pas, je ne savais pas ce que je faisais là-bas. Je ne voulais pas faire de prépa, c'était un truc que je savais. Je suis parti en histoire de l'art à la Sorbonne, j'ai fait 6 mois là-bas, ça m'a énormément plu, mais je ne voyais pas comment j'allais gagner ma vie en fait, avec ça. Et en fait, je suis peut-être un peu trop trivial, mais c'est quelque chose qui était important pour moi. Et là, je suis parti sur des études de droit. J'ai passé le barreau, derrière j'ai prêté serment, etc. Et j'ai commencé à exercer comme avocat. Je trouvais que c'était un métier qui permettait quand même pas mal d'activités différentes. Ça te permet de choisir en fait quelque chose qui te correspond bien. D'ailleurs, moi, je me suis complètement planté. J'ai commencé à faire des FUSAC, du droit des affaires. J'ai fait ça pendant pas loin d'un an et ça me plaisait pas. J'étais pas fait pour ça, plutôt, on va dire. Et je suis parti faire du pénal, qui était beaucoup plus ma came, parce que je plaidais, j'étais avec des gens, enfin, je faisais beaucoup de plaidoiries, beaucoup de commissions d'office, beaucoup de gardes à vue. C'est un rythme un peu particulier parce que c'est souvent la nuit. Enfin, l'être humain a tendance à faire des bêtises plutôt quand le soleil est couché. Donc j'étais souvent appelé entre minuit et 4 heures du matin, quoi. Tu as une activité avec des clients qui commencent à te faire confiance, tu as ton nom qui circule dans les prisons. Moi, j'ai jamais été un avocat de nez, je me suis pas dit, ça fait pas depuis que je suis gamin que je veux être avocat, etc. Donc même quand j'ai commencé à exercer, je savais que c'était pas forcément ce que je voulais faire tout au long de ma vie. Par ailleurs, moi, je crois pas franchement aux carrières monolithiques, c'est pas du tout quelque chose qui me parle, je suis très infidèle en termes de carrière professionnelle. Donc j'avais pas cette vocation. Il y a un élément matériel qui est que moi je faisais du pénal, j'étais commis d'office, je gagnais rien. Et je crois en net, je devais gagner 800 euros par mois, quoi. J'avais des envies de faire autre chose qui me démangeait. Avec mon frère, on discutait beaucoup d'envie d'entreprendre. Lui, il était ingénieur, il a fait Centrale. Et donc on avait des petits projets, on travaillait sur des applications, des choses comme ça. C'est comme ça que lui, il a commencé à développer. Moi, je voulais m'y mettre, je voulais apprendre à développer, mais j'étais nul. Parce qu'en plus, enfin, lui, il est ingénieur, donc pour s'y mettre, c'était facile. Le coût d'entrée était très, très bas. Moi, c'était pas du tout la même chose. Et en parallèle de ça, en fait, on a un ami qui est parti faire le Dev Bootcamp en Californie. C'était les précurseurs de ces formats-là, intensifs, courts, etc. Et en sortant des 9 semaines de formation, il a trouvé un boulot immédiatement chez Uber. C'était en 2012-2013. Et nous, on a trouvé ça fascinant, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ça répond à des besoins, parce que moi j'avais vraiment ce besoin-là, je cherchais ce genre de formation, J'apprenais en ligne, etc., mais j'étais vraiment pas content de ce que je trouvais et je progressais mal. Et deux, en fait, un marché qui était tellement tendu qu'en 9 semaines, notre pote avait trouvé un boulot qui était mieux payé que moi, avec mes 6 ans de droit et mon concours du barreau, quoi. Et donc, on s'est dit, au lieu de partir sur une application, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à ce format ? Les débuts du wagon, c'était très, on dit bootstrapper chez start-upper. C'est une façon de faire où tu fais petit à petit avec les moyens du bord. Quand on a lancé le wagon, moi, je travaillais à côté. Donc, en fait, je bossais sur le wagon en journée. Et puis, la nuit, je faisais des gardes à vue, quoi. Donc, il y a eu toute une période un peu comme ça où je gagnais très, très mal ma vie. Je travaillais la nuit. C'était un peu fatigant, par ailleurs, comme rythme. Et en plus, comme j'avais de l'argent, j'avais pas de vrai chez moi. Donc, j'avais littéralement un baluchon sur le petit sac là, de la marine française. Et j'habitais chez des potes pendant 2 ans, quasiment. En août 2013, on commence à travailler sur le sujet. On commence à avoir nos premiers élèves, nos premiers candidats. Mais c'est pas évident, en fait. T'es pas connu, t'es pas diplômant, t'es pas certifiant. T'es sur des sujets que les gens connaissaient pas vraiment à l'époque. Le code, c'était très nouveau. Et on a quand même réussi à recruter 15 élèves qui ont commencé en janvier 2014, un premier batch. Donc on a fait payer nos élèves, très peu cher. La première promotion, c'était 1500 euros les 9 semaines. Enfin, ce qui est vraiment pas cher pour 9 semaines à temps plein, quoi. Et avec cet argent, on a payé un prof et un local. On a passé 9 semaines éreintantes parce qu'en fait, on était avec les élèves du matin au soir tous les jours parce que c'était premier client, tu as absolument besoin de savoir comment ils vivent leur expérience, tu as absolument besoin de savoir quand est-ce que ça bloque, là où ils sont contents, etc., etc. Et au bout de ces 9 semaines, je me rappelle très bien, on était vraiment tellement crevés qu'on était allé une soirée et on avait presque fondu en sanglots tellement on était fatigués nerveusement, quoi. Ensuite, on a rapidement structuré le curriculum grâce à ces retours de nos élèves. Et on a vite grossi parce qu'on a développé via un réseau de franchises, de filiales, etc. Et on a ouvert nos premiers campus en Belgique et à Bordeaux dans les 10 mois qui ont suivi. Et aujourd'hui, on a 40 campus un peu partout dans le monde. Moi, quand j'ai lancé le wagon au début, j'ai des amis qui me disaient « t'es fou, c'est hyper risqué, en gros, c'est casse-gueule, tu gagnes pas bien ta vie déjà, tu prends des risques, etc. » Et ces mêmes personnes-là, certaines ne sont plus des amis, 5 ans après, quand le wagon marche et que ça a grossi, etc., te disent que tu as eu de la chance, quoi. Donc entre les deux, en fait, c'est quand même un gros, gros morceau de chance qui est tombé dessus. Mais le discours a vachement changé. Et en fait, ils ne voient pas que tu as travaillé ou que, tu vois, que tout ça, ce n'est pas que de la chance. Moi, ça me fait beaucoup plus marrer que ce que je faisais avant, quoi. En fait, quand tu es entrepreneur, en théorie, ton boulot, c'est d'avoir des problèmes. Enfin, sinon, tu es rentier. Donc les problèmes, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est un état de fait. C'est des choses qui se présentent à toi et que tu dois résoudre. Ils sont très différents, ils changent, ils sont hyper protéiformes, etc. Contrairement à ce que je faisais quand j'étais avocat, où globalement, c'était un peu toujours la même typologie de problèmes. Donc ça, c'est un peu moins rassurant, mais c'est beaucoup plus stimulant. Et puis c'est mes problèmes, c'est plus les problèmes de mes clients. Donc forcément, en termes de responsabilité, de charge mentale, etc., c'est pas du tout la même chose, quoi. Après, moi, l'avantage d'être entrepreneur, c'est surtout d'être entouré par les gens que tu as choisis. Tu es dans un lieu que tu as choisi, tu bosses avec des gens que tu as choisis. En l'occurrence, moi, je bosse avec des gens que j'aime. En plus, j'ai ma famille, je bosse avec mon frère. Donc, c'est un privilège incroyable. Je suis hyper heureux de ça. Derrière, je sais que je continue à m'éclater dans ce que je fais au wagon. Mais je sais aussi que, comme je le disais tout à l'heure, quand un quotidien me lasse, je vais avoir envie de faire autre chose. Pour l'instant, je me régale au wagon et je sais que j'en ai pour encore plein de belles années à développer. Mais je ne serais pas cohérent si je disais que j'étais bien à ma place et que je vais y rester toute ma vie, parce que c'est pas du tout comme ça que je perçois une évolution de carrière et un chemin de vie.
C'était un entretien mené par Victoria Guillaumont et réalisé par Sidney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdeviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.